5, 4, 3, 2, unité.
L'auberge espagnole sur Divergence FM, vie associative, culture, science, environnement, tout y passe et tous y passent.
Un artiste qu'on va dire au sens du terme large.
C'est la grosse nouveauté de l'économie sociale, a du sens.
On est loin de l'abrogation totale des gaz de schiste en France.
Moi, trash, ça va être pégueux, je pense.
L'idée, c'est de sortir de l'ordinateur.
Tout le truc que je kiffe.
Jardin sec, pourquoi le faire? Quels sont les coûts?
On reconnaît la langue du cinquième élément.
Vraiment un mur de guitare, comme un souffle atomique.
Un public habitué.
C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui les entrepreneurs d'identité.
Bah, c'est super, on voit que les motards se mobilisent.
C'est gratuit et on ne vend rien, c'est neutre, donc profitez-en.
L'Auberge espagnole, une émission de la rédaction de Divergence FM, présentée par Gilles Couget.
Tout l'an 2012, ça va se travailler, puis début 2013, on lance ça en force.
L'Auberge espagnole de ce mardi 6 novembre 2013 nous emmènera tout d'abord dans la saison 5 de l'Agora des Savoirs avec Régis Penalva, coordinateur de la manifestation pour la ville, et Michel Miaille qui partage avec Étienne Klein la présidence amicale du conseil scientifique, une saison composée sous forme d'ABCDR.
L'Agora des Savoirs, des conférences ouvertes à tous. Une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.
L'interrogation de l'être humain.
La création d'univers.
Des gens qui ont écrit, qui ont pensé avant nous, qui ont perçu la réalité autrement.
Le mercredi à 20h30, salle Rabelais à Montpellier et en direct sur Divergence FM.
Que voulez-vous, madame? Pour vous, nous avons le scepticisme, l'hédonisme, le rigorisme.
Bien peu nombreux sont ceux d'entre eux qui seraient capables de dire de quoi il s'agit.
Avec quoi est-ce que nous pouvons nous connaître? Sinon avec notre propre connaissance.
La philosophie n'est pas un ustensile.
Divergence FM diffuse les conférences en direct sur le 93.9.
Mercredi 6 novembre 2013, A comme arbre, par Francis Allais. Après 50 ans de découverte, les arbres ne sont plus comme les voyaient nos grands-parents, d'où le titre de cette leçon inaugurale, Un arbre tout neuf. Une réussite biologique à l'échelle mondiale, un effectif de 70 000 espèces augmentant chaque année par la découverte d'arbres nouveaux dans les tropiques. Les forêts tropicales contiennent les formes ancestrales et arborescentes des herbes d'Europe, pervenches, myosotis et pâquerettes. Les êtres vivants les plus grands et ceux qui vivent le plus longtemps sont et ont toujours été des arbres, les records actuels étant de 130 mètres et de 43 000 ans. Arbres et forêts existent depuis le Dévonien, 350 millions d'années, alors que l'homme n'a que 150 000 ans. Francis Allais est botaniste, biologiste et dendrologue. Ancien professeur de botanique à l'Université de Montpellier, il est spécialiste de l'écologie des forêts tropicales humides, de l'architecture des arbres et ardent défenseur des forêts primaires. Il vous attend le 6 novembre 2013 au Centre Rabelais pour cette leçon inaugurale de la 5e saison de l'Agora des Savoirs. Dans cette auberge espagnole, nous sommes en compagnie de Régis Penalva et Michel Miaille. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
C'était le médecin et chercheur en biologie Jean-Claude Amaison qui, par une leçon inaugurale, ouvrait la saison 4 de l'Agora des Savoirs le mardi 6 novembre 2012. Après plus de 20 rendez-vous, la saison 4 se refermait le 28 mai avec le Gaia Global Circus de Bruno Latour. C'est donc le moment, vu que la rentrée c'est demain, de faire un bilan de cette saison 4, mais aussi et surtout de parcourir l'ABCDR de la saison 5 de l'Agora des Savoirs qui se décline sous la forme d'un alphabet, dont le A comme arbre par Francis Allais aura lieu demain, mercredi 6 novembre, au Centre Rabelais de Montpellier, de 20h30 à 22h, et bien sûr en direct sur les ondes de Divergence FM. Régis Penalva est coordinateur de la manifestation pour la ville. Michel Miaille partage avec Étienne Klein la présidence amicale du conseil scientifique de l'Agora des Savoirs, composée d'une vingtaine d'universitaires qui y participent bénévolement. Cinquième anniversaire avec un changement de police de caractère qu'on peut tout de suite voir. On y reviendra peut-être. Mais aussi avec une proposition un petit peu différente, puisque la première saison proposait de revenir sur les origines, la deuxième saison sur les valeurs, la troisième saison sur les incertitudes. La dernière saison, c'était usage des savoirs et des sciences, et là, on a choisi la forme de l'ABCDR. Alors, c'est pas que vous étiez à court d'idées, mais pourquoi pas finalement faire ce choix, prendre cette contrainte ?
Non, l'idée, c'était quand même de renouveler un peu la formule, bien que ce sera toujours le mercredi soir du mois de novembre au mois de mai, et de marquer cette cinquième année comme en quelque sorte la fin d'une période qui nous propulsera après sur, j'espère, d'autres années à venir, et de rompre là avec, non pas la routine, mais l'habitude qui avait été prise d'un thème annuel décliné en 3 trimestres avec une espèce de retour régulier du thème. Là, on a trouvé que c'était intéressant de faire une espèce de bric-à-brac avec l'alphabet, des différents mots que suscite la première lettre ou la deuxième ou la troisième de l'alphabet, et d'inviter un spécialiste. Donc tout le monde en aura pour son savoir et ses désirs, et je pense que ça pourra être quelque chose d'assez intéressant et nouveau.
Est-ce que ça a amené quelque part une dimension plus hétéroclite dans la programmation ?
En tout cas, ça a amené une forme plus ludique, y compris dans la réflexion que le Conseil scientifique a apportée pour la programmation de cette manifestation. Je pense que Michel ne me démentira pas. Nous nous sommes bien amusés à proposer pour chaque lettre plusieurs mots. Alors évidemment, chacun prêchait pour sa paroisse. Les astrophysiciens auraient bien aimé astéroïde à la lettre A, mais finalement, c'est les biologistes qui l'ont emporté avec l'arbre. Et puis, effectivement, ça permet de continuer à faire ce que nous faisons désormais depuis 5 ans, c'est-à-dire couvrir la totalité du champ des savoirs et des disciplines universitaires, puisque sciences de la matière, sciences du vivant, sciences humaines, sciences sociales et philosophie sont toujours très bien représentées.
Peut-être que les auditeurs et puis les spectateurs qui viendront le mercredi soir verront que dans ce programme, il y a à la fois des sujets qui paraissent très sérieux, comme on a fait depuis 4 ans, hein, Big Bang par exemple, ou dinosaures, ou écrire, mais qu'il y a des sujets qui surprennent par leur intitulé, parce qu'ils font partie de notre univers quotidien.
Je pense à, par exemple,
Twitter, hein, ouais. Mais également...
À la porte.
La porte, kitsch. Donc, un certain nombre de thèmes qui, a priori, n'apparaissent pas comme des thèmes savants, mais dont on va découvrir, je pense à la porte, par exemple, mm-hmm. qui sont des thèmes extrêmement savants.
Mm-hmm. Donc, les astrophysiciens ont quand même été plutôt bien servis, puisqu'ils sont à la lettre B, comme Big Bang. Il y en a quand même pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a eu de différent, justement, dans la préparation de cette saison par rapport au niveau du conseil scientifique ? Est-ce que les gens, finalement, ont trouvé ça plus facile ?
Alors, disons que le conseil scientifique, depuis le début, a toujours travaillé dans une joie partagée. Hein. Vraiment, si vous assistiez à une de nos réunions, vous verrez que même dans le couloir, on nous entend rire. Donc, c'est le gai savoir. Hein. C'est pas du tout une réunion triste d'universitaires penchés sur des papiers. Dans les séances précédentes et dans les années précédentes, on a aussi blagué et on s'est beaucoup amusé, mais on était liés par un thème. Là, ça a été un peu un brainstorming, c'est-à-dire que qui peut dire mieux sur A, sur C, sur D, sur L. Donc ça a été une espèce de concours, j'allais dire, à trouver des thèmes surprenants à partir de ces lettres de l'alphabet, mais qui étaient en même temps liés à notre exigence de sérieux, puisque nous ne prenons comme conférenciers que des universitaires diplômés et exerçants, donc des chercheurs ou des professeurs. Nous ne prenons que des gens qui ont déjà publié et qui sont connus. Donc ça restreint quand même le choix à, disons, non pas un happy few de quelques distingués collègues, mais quand même à une frange bien déterminée dans l'univers universitaire. Et donc là, on n'a pas eu de peine à trouver, malgré cette concurrence entre les disciplines et qui fera mieux que le suivant, on n'a pas eu peine à trouver quand même la grosse vingtaine d'intervenants.
Mmh. Alors des intervenants qui amènent avec eux leur savoir, leur érudition et puis aussi parfois leur personnalité hein, lors de la conférence. Est-ce qu'il y a aussi la capacité oratoire de chaque intervenant qui est prise en considération quand on la connaît à l'avance ?
Évidemment, tout est pris en compte. D'abord, effectivement, donc la première contrainte, c'est le fait d'être universitaire. La seconde, c'est qu'effectivement, nous vérifions qu'ils ont déjà, ils sont déjà allés au feu. ils sont capables de s'adresser à un auditoire de non-spécialistes. Il y a une troisième contrainte dans les choix. Nous avons un certain nombre d'universitaires montpelliérains. Et donc, chaque saison, depuis l'origine, nous tenons vraiment à réserver un certain nombre de soirées aux universitaires de l'université montpelliéraine. Et enfin, la quatrième contrainte qui n'est pas systématique mais qu'on essaie tout de même de respecter, c'est effectivement d'inviter un certain nombre d'auteurs de livres, puisque nous avons aussi un partenariat avec la librairie Soramp. C'est que l'essai en tant qu'objet de plaisir et objet de connaissance est au cœur du dispositif.
Un dispositif qui connaît un succès constant. La salle Rabelais n'est pas extensible à l'infini, c'est plein pratiquement tout le temps.
Oui, alors on se félicite de voir des salles pleines sur des thèmes surprenants. Quand je pense l'une des conférences qui a porté sur le boson de Higgs, je ne suis pas sûr que dans la rue, si on faisait un radio-trottoir, on aurait beaucoup de réponses sur qu'est-ce que c'est que le boson de Higgs. On a fait plein, c'est-à-dire 700 personnes. C'est-à-dire la salle Rabelais est pleine et la salle en dessous, reliée par télévision, est pleine également. Alors certains même s'en sont pleins en disant « il faut arriver à l'avance, sinon on n'a pas de place ». Vous savez, je suis un peu comme Churchill qui disait quand on a reconstruit le Parlement britannique « il vaut mieux une salle un peu petite mais pleine qu'une salle trop grande et à moitié vide ». Donc après tout, pourquoi pas ? D'autant que la jauge de remplissage est quand même inégale. On s'est rendu compte qu'il y avait plus d'auditeurs, en tout cas physiquement présents, je ne parle pas à la radio, on a plus de personnes qui viennent pour des sujets extrêmement pointus, des sciences exactes, que de personnes venant pour les sciences sociales. Ça peut paraître curieux, mais finalement, une conférence sur l'histoire, sur l'esthétique, je ne dirais pas tout à fait l'archéologie, mais les sciences humaines, fait moins appel au public que les sciences exactes, la physique, la chimie, la biologie, etc. Donc, il y a une espèce de variation de la fréquentation qui est tout à fait normale. On ne cherche pas à tout prix à remplir à ras-bord, mais on peut se féliciter qu'en moyenne, on a entre 400 et 500 personnes à chaque conférence.
Un public qui est aussi constitué de fidèles.
Alors, il y a des fidèles, Régis pourra en parler, parce qu'on a essayé de savoir un peu qui venait. Alors, on a l'impression qu'il y a, d'une part, un noyau dur de personnes, disons, d'un âge non pas très avancé, mais en tout cas la cinquantaine à peu près et au-delà, qui est un public de conférences, un public cultivé certainement, fait souvent d'anciens enseignants, de gens qui ont travaillé dans la culture, des choses de ce genre-là. Donc là, on a un noyau dur qui se perpétue, je dirais, de séance en séance. Et puis, on a une espèce de couronne, c'est comme Saturne, une couronne qui change suivant les conférences, notamment composée d'étudiants, et d'étudiants en général avancés, par exemple en biologie ou en astrophysique. On est sûr qu'on va avoir ce qu'on appelle les Master 2, c'est-à-dire ce qu'on appelait autrefois le doctorat, dans la salle, et qui constitue un autre public qui, en général, ne s'assied pas aux mêmes places, est plutôt discret, mais pose quelques questions, alors là, extrêmement pointues. Et puis, on a la troisième couronne, j'allais dire, de gens inattendus qui sont venus là parce que le thème les a intéressés. Et je pense qu'on va faire l'expérience cette année qu'avec l'abécédaire, ça peut fournir peut-être un petit changement de public. En tout cas, au moins à la marge.
Un abécédaire qui un petit peu comme quand on lit la presse scientifique en ce moment, on se rend compte que finalement tous les champs scientifiques semblent de plus en plus être intriqués, intrication des propriétés quantiques de la matière, etc. Et c'est vrai que tout ce qui s'est passé autour du champ de Higgs et du boson qui va avec et qui attire, enfin qui la physique quantique excite beaucoup l'imaginaire des gens parce que elle pose aussi des questions philosophiques. Et là, j'aurais tendance à dire, c'est assez surprenant que les gens soient plus friands de sciences dures que de sciences molles, comme on les appelle, alors que finalement, on voit bien qu'elles se rejoignent aujourd'hui.
Bien sûr, mais il y a aussi cette impression que quand on écoute une conférence de sciences dites dures, on va sortir avec des réponses, au moins un état du savoir constitué au moment où il est prononcé. Mmh. Alors que lorsqu'on sort de conférences de philosophie, par exemple, on repart souvent avec beaucoup de questions.
Demain, c'est A comme arbre avec Francis Allais qu'on avait reçu il n'y a pas longtemps, qui lui est un local à Montpellier. Hein.
Oui.
Absolument. Donc, on avait reçu par rapport au film qui sort en novembre. Là,
oui, le 13 novembre, une semaine après son passage à l'Agora des Savoirs.
Et donc, ce sera B comme Big Bang ensuite, C comme Chaos, D comme Dinosaure. C'est les quatre conférences à venir. Il y a aussi F comme Femme de Science. Là aussi, il fallait... parce qu'il y avait, plusieurs conférences sur des hommes de science. Hein, je me souviens, sur Poincaré, par exemple. C'était pour renvoyer la balle.
Alors, oui, on a toujours un petit problème, si vous voulez. L'inégalité des genres dans l'université est quand même un poids que nous traînons depuis longtemps. Et malgré quelques efforts, il faut dire que le partage des genres est très... inégales en défaveur des femmes. Donc on essaie de trouver d'abord des conférencières, et nous en avons ici dans notre programme, et ensuite des sujets qui portent aussi sur les femmes. Sinon, c'est presque spontanément, culturellement, un sujet qui est complètement oublié. On fait comme si la question ne se posait pas. Donc on avait déjà pensé à travailler, puisqu'il y a eu des ouvrages produits sur les femmes scientifiques dès le 18e et puis le 19e siècle. Il ne faut pas oublier qu'encore aujourd'hui, il n'y a que deux femmes enterrées au Panthéon, et elles ne le sont que parce qu'elles sont les épouses d'un homme célèbre. Marie Curie est à cause de son mari, et Madame Berthelot également. Donc il est question d'ailleurs de faire entrer prochainement peut-être une femme au Panthéon. Alors nous, on n'attend pas que la panthéonisation soit réalisée, et on a essayé d'avoir un certain nombre de femmes comme conférencières, et là, dans F comme femme de science, on aura une galerie de portraits, je pense, des femmes qui se sont illustrées dans les sciences et qui sont malheureusement souvent un peu oubliées ou sous-estimées.
Non seulement une galerie de portraits, mais aussi Anne-Sophie Godefroy qui va venir est maîtresse de conférences, puisqu'elle y tient, maîtresse de conférences en philosophie à Paris-Créteil, et elle va venir interroger les raisons même de l'invisibilité des femmes dans le champ scientifique et les dispositifs à la fois théoriques, pratiques et institutionnels qui sont actuellement inventés depuis quelques années pour y remédier.
Alors ça, c'est je ne sais pas si c'est un fait exprès, ce sera le 11 décembre, et puis la semaine suivante, ce sera Geneviève Fraisse qui fera G comme genre. Donc on est un petit peu dans... Il y a aussi une logique, puisque le 8 janvier, ce sera H comme Homo historicus. Donc c'est un fait exprès ou ça s'est trouvé comme ça?
Non, on aime bien faire de temps en temps des petits doublons et des séances qui se suivent pour approfondir un sujet.
La leçon inaugurale donc aura lieu demain avec Francis Allais qui va parler de l'arbre. L'arbre qui là aussi pose des questions. Alors on parlait de physique quantique tout à l'heure, on a appris dans le courant des 24 derniers mois que la photosynthèse, en fait, son secret, son rendement de 100% était dû à la propriété de la multiplication des chemins où les particules prennent tous les chemins à la fois. Lui souligne le fait que les arbres sont là depuis bien plus longtemps que nous, que le génome du grain de riz est immensément plus long que le nôtre, et qu'il y a beaucoup de vanité dans le comportement de l'espèce humaine avec la fleur.
Oui, il y a, vous savez, de façon générale, une revisitation, je crois, des poncifs qui nous habitent, où on pense que... On a une vision quand même, j'allais dire, de la nature et de la création qui est assez proche des grandes liturgies théologiques. C'est-à-dire, l'homme est au centre, il est l'espèce certainement la plus complexe, il est donc forcément au sommet de cette création. Et donc, tout le reste, des rochers, des arbres, des animaux, n'est qu'une sorte d'environnement qui mettrait en valeur l'humain. On se rend compte aujourd'hui que les choses vues d'un point de vue scientifique sont assez différentes, que l'homme n'est qu'un élément dans un ensemble très complexe, et que dans cet ensemble, il est quelquefois dépassé du point de vue des critères scientifiques par des objets comme les arbres qui nous paraissent d'une grande banalité.
Et on apprendra justement demain qu'il n'en est rien. Ensuite ça partira sur le Big Bang avec Aurélien Barraud qui est-ce qu'il est de Montpellier, Aurélien Barraud?
Non, il est grenoblois. Il vient de l'université Joseph Fourier de Grenoble et il est chercheur au laboratoire de physique subatomique et de cosmologie du CNRS.
Mmh. Big Bang qui risque d'attirer encore beaucoup de monde.
Alors on avait déjà eu des conférences un peu dans ce sens-là, hein, dans la deuxième année déjà. Alors ça, le Big Bang, c'est sûr que ça attire en général les foules. D'abord parce que c'est un terme qui est aujourd'hui rentré dans le langage courant. Ensuite parce qu'on croit savoir ce que c'est. Et pour beaucoup, le Big Bang est le début de notre monde créé. Alors que pour les chercheurs, c'est au contraire la fin d'une période. Mmh. Donc il y a une erreur complète sur le sens qu'on vient d'accorder à Big Bang. Et je pense que là, il va y avoir à nouveau des questions qui sont souvent des questions moins de physique, ce qui se comprend, ou de cosmologie, que des questions presque philosophiques. Comment est né notre monde? D'où venons-nous? Sommes-nous des parcelles d'étoiles? Quelle est la différence entre la matière et l'esprit, etc.
D'autant que les dernières images du satellite Planck, du coup, remettent en question certaines choses, notamment par rapport aux dissymétries qu'on peut observer dans la température de cette instantanée pris très très peu de temps après la singularité, on va dire ça comme ça. Donc effectivement, oui, on croit savoir ce que c'est. En fait, ça reste, pour aujourd'hui encore, c'est un champ théorique.
Oui, je crois que le terme qui est passé dans le langage courant, qui est presque métaphorique, cache qu'il est plus une hypothèse de recherche pour les chercheurs et qui ne délivre pas encore tous les secrets du monde. Il n'est pas un de ces secrets qui serait caché dans une cave du Vatican et qu'on garderait jalousement. C'est surtout pas ça.
Ensuite, ce sera, et puis on va peut-être terminer là-dessus, parce qu'on retrouve évidemment tous les rendez-vous sur le site montpellier.fr sur la rubrique de l'Agora des Savoirs. Ensuite, ce sera Gilles Kepel qui viendra parler de C comme chaos. Il ne s'agit pas de la théorie du chaos ni de physique quantique, mais d'une chronique sur les révolutions arabes. Gilles Kepel qui est politologue.
Alors, Gilles Kepel est déjà venu à Montpellier, notamment pour les entretiens de Pétrarque l'été dernier. Et le chaos est un peu symbolique du dernier livre qu'il vient d'écrire et qui est au fond une relation de sa propre expérience pendant 20 ans de l'étude des pays arabes. Et ce qui en ressort, évidemment, malheureusement, aujourd'hui, c'est plutôt l'idée d'un chaos, d'une désorganisation que d'une mise en ordre. Je ne doute pas que là, on va remplir la salle, parce que Gilles Kepel a un verbe facile à écouter, il a de l'humour, il a maintenant un peu la sagesse des chercheurs qui se retournent un petit peu sur 20 ans ou 30 ans de travail. Et je pense que ça vaut la peine de venir l'écouter. Je pense qu'il aura autant d'auditoires qu'il en a eu quand il est venu pour les entretiens de Pétrarque.
Alors justement, on disait qu'il y a souvent des gens qui se disent « Ah bah tiens, on a pas de place, on peut pas venir, etc. » Alors on rappelle que les conférences sont retransmises en direct par les bons soins de Bruno Bertrand le mercredi, donc en direct, et qu'à 14h le samedi, les auditeurs peuvent réécouter la conférence. Et puis il y a aussi la Maison des Sciences de l'Homme qui est toujours en partenariat avec l'Agora des Savoirs et qui met en ligne les vidéos pour ceux qui préfèrent
voir l'image.
Mais c'est vrai qu'il y a parfois des gens qui préfèrent n'écouter que le son sur les conférences.
Oui.
Ça permet de se focaliser.
Il y a effectivement les deux publics, ceux qui écoutent la radio et souhaitent écouter le son et ceux qui souhaitent le suivre en streaming et en direct aussi sur Internet.
On a cité la librairie Sorams aussi, la Maison des Sciences de l'Homme. Il y a aussi les trois universités, Montpellier 1, 2 et 3, ainsi que le lycée Joffre qui sont de la partie. C'est eux qui participent au conseil scientifique.
Alors les trois universités, oui, participent au conseil scientifique. Quant au lycée Joffre, ils participent d'abord à la diffusion du programme auprès de l'ensemble des lycéens et étudiants des classes préparatoires, et surtout dans le cadre du partenariat avec Direct Matin Montpellier Plus. Chaque mercredi matin, on trouve une interview du conférencier sur une pleine page. Et cette interview est réalisée par un ou une étudiante différent chaque semaine. Et ces étudiants nous sont fournis, évidemment, par des membres du conseil scientifique qui nous les conseillent, donc des étudiants de l'université, mais aussi un certain nombre d'entre elles, parce que ce sont souvent des jeunes femmes, viennent des classes préparatoires du lycée Joffre.
Parfait. Michel Miaille, Régis Penalva, on vous remercie. On souhaite une excellente cinquième saison à l'Agora des Savoirs.
Merci, merci beaucoup.
À très bientôt sur les ondes de Divergence.
À très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
I'd like to dedicate this to all the Creator's righteous children. I have some food in my bag for you.
Not that edible food, the food you eat? No. I have some food for thought. Since knowledge is infinite, it has infinitely fell on me. So, it was a stormy night. You know the kind where the lightning strikes. And I was hanging out with some of my artsy friends. Ooh, you, you. The night was long, the night went on. We were cooling out through the break of dawn. Incense was burning, so I'm feeling right. I see, I picked my friends like I pick my fruit. And Gany told me that when I was only a youth. I don't walk around trying to be what I'm not. I don't waste my time trying to get what you got. I work it pleasing me, cause I can't please you. That's why I do what I do. My soul flies free like a willow tree. Do we, do we, do we? And if you don't wanna be down with me, you don't wanna be from my apple tree. And if you don't wanna be down with me, then you don't wanna be from my apple tree. And if you don't wanna be down with me, then you don't wanna be from my apple tree. And if you don't wanna be down with me, I take it everywhere I go. Cause I'm planting seeds, so I reap what I sow. You know, on and on. My cyber keeps moving like a rolling stone. I can't control the soul flowing in me. Ooh, ooh. See, I picked my friends like a pick my fruit. And Gany told me that when I was only a youth. I don't walk around trying to be what I'm not. I don't waste my time trying to get what you got. Work it pleasing me, cause I can't please you. And that's why I do what I do. My soul flies free like a willow tree. Do